Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une idée qui est revenue dans l'actualité depuis quelques semaines avec des affaires de cyberharcèlement, la multiplication d'attaques racistes, antisémites, misogynes, homophobes ou contre des personnalités publiques comme des députés, des acteurs, des chanteurs. L'anonymat sur Internet et sur les réseaux sociaux entretiendrait un sentiment d'impunité et favoriserait les discours insultants ou haineux et autres fausses informations. Emmanuel Macron a abordé le sujet pendant l'un de ses déplacements pour le grand débat national qu'il a lancé. Une loi contre l'anonymat sur Internet est annoncée pour le mois de mai. Faut-il supprimer l'anonymat sur Internet? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Marilyn Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en sciences informatiques à Télécom Sud Paris. Vous êtes aussi cofondatrice de la chaîne Valeurs et politiques des informations personnelles et vous avez coédité l'ouvrage La gestion des identités numériques. C'est aux éditions IST et c'est paru en 2015. Et Valérie Ray-Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de clientèle chez Concileo, qui est une entreprise de modération de contenu et autrice du livre Une culture du viol à la française, du troussage de domestiques à la liberté d'importuner et qui vient de sortir aux éditions Libertalia. L'anonymat favorise-t-il les comportements haineux sur Internet, Marilyn Laurent?
Eh bien, ça reste à prouver, en fait. D'après les études, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut vraiment se référer à des études sérieuses là-dessus et pas faire une supposition de cet ordre-là, en fait.
Oui, c'est-à-dire que les études montrent, en fait, que c'est peut-être même l'inverse, c'est ça que...
Oui. Que c'est peut-être même l'inverse. Donc il faut s'en référer. Alors c'est peut-être aussi culturel, donc il faudrait peut-être regarder des études qui existent en France, par exemple. Mais dans d'autres pays, c'est avéré que c'était l'inverse.
Valérie Ray-Robert, les gens qui propagent la haine sur Internet, ou qui attaquent, ou qui harcèlent, le font assez volontiers sous leur propre nom?
Alors ce qu'on a constaté, c'est qu'avec une grosse étude américaine qui a porté sur des dizaines de milliers de contenus, on a constaté que lorsque les gens avaient une opinion à laquelle ils croyaient, une opinion à défendre, même si elle était haineuse ou raciste, ils le faisaient plus volontiers sous leur véritable nom. Parce qu'en fait, ils estimaient que comme la cause était importante, en fait, autant le faire sous leur vrai nom. Et donc, il a été étudié deux grands événements... entre autres, un film Ghostbuster où une actrice noire a été insultée sur les réseaux sociaux et les trois quarts des gens qui l'avaient insultée l'ont fait sous leur vrai nom.
Cette désinhibition, c'est lié à la distance ou au fait de ne pas avoir la personne en face de soi? Qu'est-ce que vous en pensez, Marilyn Laurent?
La désinhibition.
On a parfois l'impression, c'est ce qui est dit dans ce débat sur l'anonymat, que les gens sont à l'abri derrière leur clavier et que eh bien ils balancent des choses comme ça, non?
Mais encore une fois, ça reste à prouver. Enfin, il y a pas comme le disait à l'instant notre invité.
Non, mais c'est pas lié à l'anonymat, mais c'est lié au fait qu'on soit à travers l'écran.
Ah, c'est toujours plus simple effectivement d'agir dans le virtuel que d'agir dans le réel. Mais encore une fois, enfin même dans la réalité, des fois la violence des propos est vraiment très forte. Donc on peut aussi se poser la question.
Ça veut dire que selon vous, les propos qu'on voit sur les réseaux sociaux ou sur Internet ne sont pas plus violents que ceux que des personnes que vous pouvez croiser, j'allais dire dans la vraie vie, mais l'Internet est vrai. Mais vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, c'est vrai qu'on fréquente pas forcément les mêmes cercles dans la vraie vie que sur Internet. C'est peut-être ça qui fait la différence et qu'on a l'impression que la violence est plus prononcée sur Internet.
Il y a un sentiment d'impunité, Valérie Ray-Robert?
Il n'y a pas qu'un sentiment d'impunité, il y a de l'impunité en fait, puisque la plupart des gens, enfin on est même au-delà de la plupart, c'est l'immense majorité des gens qui tiennent des propos racistes, sexistes, homophobes sur Internet, ne subissent aucune condamnation, qu'elle soit même morale, mais encore moins judiciaire, parce que de toute façon, à l'heure actuelle, la justice aurait difficilement les moyens de tous les juger et les condamner.
Alors oui, est-ce que ces gens qui publient sous leur nom ou sous un autre d'ailleurs, enfin sous un pseudonyme, est-ce qu'on peut les retrouver facilement, Marilyn Laurent?
Eh bien en fait, il y a des procédures et donc il y a tout un arsenal juridique qui permet justement de lever cet anonymat. Alors déjà, peut-être qu'on pourrait se poser la question, c'est quoi l'anonymat en fait? Et en fait, on peut avoir un anonymat à deux niveaux. Est-ce qu'on est anonyme par rapport à une plateforme? En généralement, non. En fait, il s'avère que cette plateforme connaît, même sous un pseudo, connaît notre véritable identité. On a tellement de traceurs avec nous, en fait, qu'on est porteur de ces traceurs dans les applications qu'on utilise, notre téléphone mobile aussi qu'on utilise, et donc les applications de réseaux sociaux qu'on peut, disons, qu'on utilise aussi, eh bien, on se rend compte que ces plateformes nous connaissent parfaitement. Et donc l'anonymat, du coup, n'existe pas. Et il y a un deuxième niveau, c'est le réseau social. On interagit avec d'autres personnes et dans ce cas-là, des fois, on souhaite préserver cet anonymat. Tout simplement parce qu'on peut interagir sur un forum de santé et on n'a pas spécialement envie que notre maladie soit connue de tout le monde.
Quand vous dites qu'il y a une quasi impunité totale, Valérie Ray-Robert, est-ce que c'est pour inciter peut-être les gens à porter plainte quand ils sont victimes de ces choses-là, pour qu'on aille retrouver les auteurs de ces messages? Est-ce que ça change quelque chose?
Alors, est-ce que ça change quelque chose? Ça, c'est difficile parce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de plaintes, qu'on ait un recul sur ça pour le constater. Le problème, c'est que on a aussi une justice qui, par manque de moyens, est spécialement lente. On l'a vu dans le cas de Nadia Adam, la journaliste Nadia Adam, qui a porté plainte contre.
J'allais vous en parler. Oui, alors allez-y, continuez.
Désolée, concernant cela.
Très bien.
Donc, deux d'entre eux ont été jugés et condamnés. Le problème, c'est que ça a vraiment mis du temps. Et on sait bien que pour qu'une justice soit exemplaire, il faut qu'il y ait aussi une rapidité de l'exécution de la peine, en fait. Ou la rapidité de l'exécution de la condamnation. Et là, c'est pas forcément le cas. Donc,
Ouais, pour vous, c'est pas le cas. La peine n'a pas été suffisamment exemplaire dans ce cas-là. Je vais rappeler ce que c'est que cette affaire. Nadia Adams, qui est toujours chroniqueuse sur Europe 1, fait une chronique sur un site de jeux vidéo où, les adeptes se laissaient aller à des commentaires ultra sexistes. Elle a été menacée, elle a reçu un tombereau d'insultes sur Internet, elle a porté plainte. Et finalement, donc, vous le disiez, deux de ses agresseurs ont été condamnés. Ça n'a pas été suffisant, selon vous?
Je pense en fait que comme il y a eu vraiment un important laps de temps entre les faits et la condamnation, c'était un peu déjà dilué pour tout le monde. C'est un peu le problème. Il faudrait une justice qui soit plus rapide. Et à l'heure actuelle, elle manque de moyens, donc c'est compliqué.
Mais les moyens de la lutte contre le cyberharcèlement et la haine sont-ils suffisants pour vous, Marilyn Laurent? Je pense par exemple à la plateforme publique Pharos, où on invite les gens à signaler ce genre de comportement. Il n'y a pas assez de gendarmes qui travaillent, tout simplement, quoi.
Très certainement, oui. Ils sont en sous-effectif et c'est nettement ce problème-là qu'il faut mettre en avant. Pas tellement celui de supprimer l'anonymat. En fait, comme je disais, il y a tout un arsenal juridique qui existe. Sauf que, en manque d'effectifs, eh bien, ça met beaucoup de temps à mener à bien une procédure. Mais sinon, c'est pas très compliqué, vous savez, de contacter la plateforme, de récupérer un certain nombre d'informations techniques qui nous permettent ensuite d'aller voir le fournisseur d'accès à Internet et de récupérer vraiment l'identité de la personne. Pour moi, tout cet arsenal juridique, c'est aussi une barrière, quelque part une barrière de protection pour l'ensemble de la population, pour éviter que ce soit trop facile justement d'accéder à leur véritable identité.
Est-ce que pour vous, l'une et l'autre, les mesures juridiques telles qu'elles existent actuellement sont suffisantes, Valérie Ray-Robert?
Ah, je peux pas vous dire mieux que oui. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'agréger des lois sur des lois, mais ça vaut pour absolument tous les domaines. Et je pense que oui, il faut simplement, pour Pharos par exemple, pour y revenir, le problème c'est qu'ils sont en charge aussi du terrorisme et de la pédocriminalité. Donc on se doute bien qu'entre ces deux pans de leur activité qui sont vraiment d'une importance capitale et du harcèlement sur Internet, il y a forcément des priorisations et on peut que les comprendre. Donc il faudrait effectivement multiplier le nombre de personnes dédiées à Pharos.
Marilyn Laurent, il y a suffisamment d'éléments juridiques pour lutter contre le harcèlement et la haine sur Internet?
À mon sens, oui, en fait, sur Internet, déjà, on n'est pas anonyme. Très, très peu de personnes savent comment rester anonyme. Donc, forcément, pour la grande majorité des gens, cet arsenal est complètement suffisant, oui.
Est-ce que, vous en parliez un petit peu, les hébergeurs, et on va les citer quand même, Facebook et Twitter, qui sont les principaux réseaux sociaux et réceptacles de ce genre de comportement. Est-ce qu'ils en font suffisamment, Valérie Ray-Robert?
Alors, c'est difficile de savoir s'ils en font suffisamment parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc,
ils communiquent assez peu là-dessus.
Voilà, ils communiquent assez peu. On ne sait pas leur méthode de modération. On ne sait pas si c'est de la modération humaine. On ne sait pas le nombre de modérateurs humains. On ne sait pas si c'est de la modération automatique via des robots. On a vu qu'il y avait souvent eu des failles de sécurité. On sait que les noms de leurs modérateurs, je crois que c'est il y a un an, une partie des noms ont été exposés. Donc ça les fragilise.
Ouais.
Ça les fragilise. Donc c'est difficile de savoir ce qu'ils en font et est-ce qu'ils en font assez. De mon point de vue d'utilisatrice, j'ai envie de dire que non, puisqu'on peut constater tous les jours les poubelles que sont Facebook et Twitter, mais il faudrait savoir exactement ce qu'ils ont mis en place. Ce qu'ils ne cessent de dire qu'ils vont s'améliorer, mais ils parlent de quoi?
Et vous, en tant que directrice de clientèle de Consilio, qui est donc une entreprise de modération de contenu, vous avez des rapports avec ces entreprises pour essayer d'améliorer les choses?
Très difficilement, parce que justement, ils ont vraiment tendance à considérer, bon, ce qu'on est, on regarde la puissance de Facebook, qu'on est des tout petits, donc ils n'ont pas grand chose, ils n'ont pas de compte à nous rendre, en fait. C'est un peu le problème, non, on n'a pas de contact avec eux. On doit s'adapter à eux, mais ils ne s'adaptent jamais à nous.
Marilyn Laurent, est-ce que Facebook et Twitter, pour ne citer qu'eux, en font suffisamment contre les messages haineux?
C'est assez compliqué de répondre. En fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que, disons que, en fonction du pays, il peut y avoir des différences culturelles, où des fois des propos sont tenus, et ne sont considérés finalement comme une liberté d'expression, alors que dans d'autres pays, ce serait vraiment considéré comme du racisme. Et des fois, donc c'est un peu compliqué pour eux, faut un peu comprendre. En même temps, ils sont là aussi pour être gardiens du respect entre les individus participant au réseau social.
Est-ce qu'il existe des signalements abusifs en fonction des convictions philosophiques ou religieuses, par exemple Valérie Rey-Robert?
Alors moi, c'est ce que je constate régulièrement sur des journaux dont on s'occupe, c'est-à-dire que les gens vont modérer parce qu'ils sont pas d'accord, vont lancer un signal d'alerte parce qu'ils sont pas d'accord avec la personne, ou parce qu'ils ont ils ne s'entendent pas avec, donc ils vont alerter tous ces messages juste pour embêter l'autre qui sera parfaitement au courant. Donc ça va être des guerres d'alerte qui vont nous faire perdre un temps considérable et qui les amuse beaucoup. Donc oui, sans aucun doute, ça existe aussi sur Twitter et Facebook.
Des signalements abusifs, vous avez étudié ça dans vos fonctions, Marilyn Laurent, ou c'est,
non, pas, non, pas du tout. En fait, on a plutôt étudié l'aspect multi-identité, en fait, associé aux individus, et ça, c'est vraiment un volet intéressant.
Alors, vous voulez dire le fait qu'une seule personne a plusieurs avatars sur différents sites,
c'est ça
que vous voulez dire?
Oui.
Et ça, donc, on multiplie les personnalités comme ça
Eh bien, en fait, même dans la vie courante, on est multifacette, et donc, on interagit en tant que professionnel, en tant que parent, en tant que... je sais pas, sur des forums divers, parce qu'on a un intérêt à contribuer au forum. Et donc effectivement, le fait de supprimer cet anonymat, fait en sorte qu'on apparaît sur Internet sous couvert d'une seule identité. Donc ça veut dire que c'est réduire une personne qui est multi-identitaire à une seule de ses identités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, finalement, elle va s'auto-censurer, parce qu'elle a pas envie de correspondre sous ces différentes identités à la personne réelle qu'elle est réellement. Et donc, elle va peut-être favoriser une de ces identités, qui peut être l'identité professionnelle, en tant que journaliste, en tant qu'enseignant-chercheur, ou bien une identité en tant que chroniqueur. Enfin, donc, il y aura une seule qui sera privilégiée, et l'autre, on l'étouffera plus.
On va s'auto-réprimer, c'est ce que vous voulez
exactement.
Dire. Exactement. L'anonymat ou le pseudonymat, j'ai lu ce mot-là en préparant l'émission, est-ce que c'est finalement pas une protection contre les attaques haineuses? Je prends l'exemple de la tristement célèbre affaire de la Ligue du LOL, qui a des prolongations encore jusqu'à aujourd'hui, et où la féministe Daria Marx, c'est un pseudonyme, disait que ça lui a permis de mettre de la distance avec ce qu'elle subissait. Valérie Rey-Robert, c'est quelque chose qui peut être utile pour se protéger, l'anonymat, en fait?
Oui, absolument. Déjà, ça a plusieurs niveaux. Ça vous permet de vous protéger si vous êtes victime d'attaque, parce que vous pouvez vous dire que c'est votre pseudonyme qu'on attaque, une des facettes, comme disait Marilyn, de votre personnalité, mais pas de votre personnalité tout entière. La deuxième chose, que ça peut éviter qu'on vous retrouve et qu'on vous harcèle dans la vraie vie, même si cette notion n'a pas plus grand sens maintenant. Et la troisième chose, c'est aussi que vous pouvez exprimer comme le disait aussi Marilyn, des choses que vous ne pourrez pas exprimer sous votre vraie identité. Des convictions politiques, des convictions syndicales, un combat militant. Moi qui suis féministe, par ailleurs, je sais que beaucoup de féministes ne s'exprimeraient pas si elles n'étaient pas sous anonymat, parce qu'elles pourraient avoir des problèmes dans leur vie, dans leur vie professionnelle, etc.
C'est quelque chose qui est important aussi pour les lanceurs d'alerte, Marilyn Laurent, le fait de pouvoir se présenter sous une identité fabriquée.
Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est une entité qui les protège finalement, qui les protège des abus de pouvoir, qui les protège dans certains pays qui prônent pas la liberté d'expression, par exemple. Et donc ces alerteurs sont vraiment utiles. Et donc ce serait vraiment néfaste en fait pour le travail qu'ils font, et ça remettrait vraiment en jeu leur contribution, en fait. Oui.
Cette idée de mettre fin à l'anonymat, et je pose la question très directement, est-ce que c'est pas aussi une idée de classe, Valérie et Robert? Des gens connus, des personnalités publiques, qui sont soit président de la République, soit eurodéputés, des personnalités installées auxquelles finalement, il peut pas vraiment arriver grand-chose. Est-ce que cette idée, c'est pas de défendre justement une position établie?
Je crois qu'il y a deux choses. Je crois qu'il y a une idée de classe, comme vous le dites, c'est-à-dire que eux ont peut-être une idée fausse parce qu'ils sont protégés par relativement protégés par le fait d'être connus, etc. De la personne qui serait par exemple syndicaliste et qui ne peut juste pas exprimer ses opinions politiques, j'y reviens, sous sa vraie identité. Et l'autre chose aussi, je pense qu'il y a aussi quand même, il faut quand même le dire, une forte méconnaissance d'Internet par les gens qui soumettent ce genre d'idées, parce que la grande majorité des experts sur le sujet sont contre la levée d'anonymat, donc on dit pas ça pour le plaisir de le dire, c'est qu'on a des vraies convictions derrière, donc je pense que certains ignorent vraiment ce que sont les réseaux sociaux à l'heure actuelle.
Aller vers la levée progressive de toute forme d'anonymat, c'est ce que disait Emmanuel Macron lors de sa réunion avec des maires à Souillac, dans le département du Lot, le 18 janvier dernier. Pour vous, c'est définitivement une mauvaise idée, Marilyn Laurent?
Ah oui, tout à fait. Et en plus de ça, s'acouquiner avec les GAFAM, toutes ces grandes entreprises du numérique, qui sont déjà ultra puissantes, ce sera encore renforcer, à mon sens, leur pouvoir. Et les associer avec des instances politiques pour faire de la surveillance, du contrôle d'identité, c'est vraiment une mauvaise idée.
Internet était conçu au départ comme un espace, même si c'est un système militaire au tout départ, comme un espace de liberté et surtout totalement décentralisé. Le fait de se créer des avatars, est-ce que c'est pas finalement consubstantiel à Internet, Valérie Ray-Robert?
Si, absolument. Il a été conçu dans ce but, et je crois qu'il faut pas le changer. Et puis encore une fois, il faut vraiment appuyer sur le fait que on ne résoudra pas le problème des propos racistes, misogynes, homophobes sur Internet par la levée de l'anonymat.
Est-ce que vous l'analyseriez comme ça? Est-ce qu'on est dans une tentation de contrôler Internet et de réguler Internet de manière plus ou moins forte ou plus ou moins différente selon les pays, Marilyn Laurent? Est-ce que les États sont en train de remettre la main dessus, tout simplement, ou essayent?
Je pense que c'est une partie, effectivement, du monde qui leur a échappé, en tout cas en France. Et donc, effectivement, les instances gouvernementales, en fait, essayent de remettre la main dessus. On voit la loi de fiscalisation, par exemple, qui essaie aussi de reprendre une part du gâteau d'Internet. Mais c'est pas que ça. La surveillance, comment avoir un meilleur contrôle sur le citoyen. Donc tout ça sous couvert de, on veut une meilleure sécurité, mais une meilleure sécurité au péril des libertés individuelles. Et c'est vraiment ça, c'est extrêmement dangereux comme système, et il faut vraiment garder cet équilibre d'une façon saine.
Valérie Ray-Robert, c'est également votre avis?
Oui, absolument, mais ça fait partie de l'ensemble de ces lois qu'on vote un petit peu comme ça, de manière, ultra rapide pour répondre à des inquiétudes, mais qui en fait ne sont pas réellement réfléchies.
Merci Valérie Ray-Robert, merci Marilyn Laurent, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation, aujourd'hui Alice Ménard. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobile comme RFI, Pure Radio, rubrique magazine, participez au débat du jour sur les réseaux sociaux, dans le respect s'il vous plaît. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.